Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Billy Van Lutumba.
Ce journal s'ouvre par cette colère des habitants de Savo dans le territoire des Djougou, province de l'Ituri. C'est après que des miliciens de la Codeco aient attaqué le camp des déplacés situé à Savo. Les manifestants dénoncent la passivité des éléments de l'armée régulière dans la sécurisation de ce coin. Nous vous parlons aussi dans ce journal du comportement des usagers de la route dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu. La police des circulations routières parle d'une cinquantaine de décès dus aux accidents. Elle note cependant une baisse des cas d'accidents à travers la province. En fin de cette édition, nous parlons électrification des milieux ruraux et périurbains avec le coordonnateur provincial de Anser Grand Kassai par rapport aux actions que mène cette agence dans cette partie de la République. Fidèles auditeurs, merci de la confiance que vous ne cessez d'accorder à Radio Kapi. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Nous commençons par l'Ituri où des miliciens de la Codeco ont attaqué ce jeudi matin le site des déplacés de Savo dans le territoire de Djougou. Selon des sources concordantes, le bilan est de 7 déplacés tués et des blessés ainsi que des dégâts matériels importants. Cette nouvelle attaque, après celle de février 2022 où 62 déplacés ont été tués, a suscité une vive tension. Les manifestants fustigent la défaillance des FRDC et des casques bleus de la MONUSCO pour la protection des civils face aux exactions des groupes armés. Isaac Remoyope.
Les miliciens de la Codeco munis de fusils et d'armes blanches se sont introduits vers 2h du matin au site de Savo qui héberge environ 30 000 déplacés. Ils ont découpé à la machette 7 personnes, dont 5 enfants et une femme, affirment des sources de sécurité. Ces hommes armés ont également saccagé plus de 50 maisons et presque tous les déplacés ont fui la nuit pour s'installer au centre commercial de Boulé à environ 3 km. Les FARDC qui étaient en sous-effectif à Savo et à Gali n'ont pas réussi à déjouer cette attaque. Les casques bleus de la MONUSCO basés à Bayo à environ 5 km sont arrivés après les drames, ce qui a suscité la colère de certains habitants qui ont envahi ce matin la base de la MONUSCO pour exiger son départ. Les manifestants accusent les FARDC et les forces de la MONUSCO de n'avoir pas évité cette nouvelle attaque au site de Savo où environ 62 déplacés ont été tués en février 2022. Pour le moment, un calme précaire s'observe dans la zone, mais les déplacés sont à débandade car ils ont peur de regagner le site qui, selon eux, n'est pas protégé. Bounia Isakare Moyope, Radio Okapi.
En réaction, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri indique que l'intervention des casques bleus qui étaient en patrouille dans la zone a permis de limiter les dégâts au site de Savo dans le territoire des Djougou. Karna Soro précise que la zone d'intervention est vaste et que les forces de la MONUSCO ne peuvent être partout à la fois. Il dénonce cependant ces exactions de la milice Codeco qu'il qualifie des crimes contre l'humanité qui ne restera pas impunie. Nous restons toujours dans la province de l'Ituri où la faction de la milice Zaïre dénommée Mouvement d'autodéfense populaire de l'Ituri, MAPI, s'engage à adhérer au processus de paix en cours initié par le chef de l'État pour la cessation définitive des hostilités dans cette province. Les délégués de cette milice l'ont dit mercredi au gouverneur de province au cours d'une réunion du comité provincial de sécurité à Bounia. Les autorités militaires de l'État des sièges saluent cet acte et encouragent d'autres jeunes qui ont pris les armes contre la République d'emboîter le pas. Massia Kizabiamongo.
Les délégués de ce mouvement armé conduit par Benjamin Bati, leur porte-parole, se disent engagés dans le chemin de dialogue pour la recherche de la paix à l'Ituri. Ces groupes armés que plusieurs sources concordantes attribueraient la paternité de la milice active appelée Zaïre acceptent de même d'adhérer au pourparlers de Nairobi et au processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire des DRC. Une option saluée par le gouvernement provincial. Son porte-parole lance un appel aux jeunes qui traînent les pas de désarmer leur cœur et de déposer les armes. Le lieutenant Gilles Ngongoun.
Nous encourageons tous les groupes armés tentés illégaux d'armes d'emboîter les pas pour faire la paix autour de cette approche initiée par le président de la République. Les commandants suprêmes de forces armées dans cette approche où les enfants de l'Ituri doivent désarmer leur cœur en déposant les armes, en faisant la paix en province de l'Ituri.
Les porte-parole des FARDC à l'Ituri précisent que des pourparlers se poursuivent pour convaincre toutes les factions de la milice milice Zaïre très active dans les territoires d'Iromou, de Djougou et de Magui d'adhérer au processus de paix en cours. Bounia, Martial Kizabiamonko, Radio Okapi.
Un plus bref dans le Nord Kivu, une accalmie précaire s'observe depuis environ 5 jours maintenant sur toutes les lignes de front dans le territoire de Rutshuru, et notamment dans les groupes Matongo, Bambo et Bichoucha en chefferie de Bouito, mais aussi dans le Binza en chefferie de Bouicha. Cependant, des sources locales se disent inquiètes des mouvements des rebelles du M23 dans le Bouito, où ces rebelles renforcent leur position opérationnelle en armes et munitions depuis vendredi dernier. Une source d'inquiétude pour les habitants qui disent craindre d'éventuelles offensives. La nouvelle société civile Force Vive du groupement de Basongora dans le territoire de Beni appelle la population de Kassindi Lubiri à la vigilance et à dénoncer tous les cas suspects dans cette entité. Cette commune rurale frontalière de l'Ouganda, qui a été la cible dimanche dernier d'une attaque à la bombe ayant occasionné la mort d'une quinzaine de personnes et plusieurs blessés, le coordonnateur de cette structure citoyenne appelle également les chefs des quartiers et des cellules de Kassindi Lubiri à identifier les habitants dans leurs entités respectives. On écoute Denis Kalinga Serge, coordonnateur de la nouvelle société civile dans le groupement de Basongora, joint au téléphone par Marc Marofimbo.
Nous vous rappelons, chère population du groupement Basongora, que l'ennemi est encore aux alentours. Soyons très vigilants, renforçons nos dispositifs sécuritaires par nous-mêmes d'abord, en se sécurisant avant que le gouvernement ne prenne la décision de nous sécuriser. La bonne sécurisation ne commence que par soi-même. Dénonçons tous les cas suspects et tous les cas qui ne cessent de nous endeuiller. Que les chefs des quartiers, les chefs de ces l'île, le 10 maisons, nous aide à faire passer les grands messages de la sensibilisation à la population, tout celui qui n'est pas connu dans son quartier, qu'il soit dévoilé auprès des services de sécurité pour que ces derniers puissent prendre en considération, pour que ces derniers puissent aller faire des enquêtes pour que l'inconnu soit déniché et qu'il soit connu davantage.
De son côté, le porte-parole des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises rassure. Le lieutenant-colonel Makazukai annonce le renforcement des dispositifs sécuritaires à Kassindi Lubiri pour sécuriser la population. Et en rapport avec toutes ces situations confuses d'insécurité, des tueries dans la partie est du pays, il s'est tenu hier mercredi 10 janvier à la primature une réunion de sécurité présidée par le premier ministre Jean-Michel Samalukonde sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au cours de cette réunion, quelques points ont été abordés, notamment l'attentat de Kassindi, l'activisme du M23 à Rutshuru, les conflits interethniques à Djougou et la situation dans le Grand Bandundu. Quelques membres du gouvernement et les officiers supérieurs de l'armée et de la police y ont pris part. Selon le porte-parole du gouvernement, cette première réunion de l'année a permis de faire le point de la situation sécuritaire dans le pays. On écoute Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement, dans cet extrait choisi par Élisée Chikota.
Spécialement pour ce qui concerne l'attentat de Kassindi, l'armée nous a informé des mesures de sécurité qui ont été prises, notamment pour assurer les fouilles, les contrôles, pour éviter, pour prévenir ces types d'attentats. Nous espérons continuer la sensibilisation à ce niveau-là pour que les populations adoptent des comportements qui permettent de dénoncer ces activistes chaque fois qu'il y a des mouvements suspects. Et par rapport à ce qui s'est tenu à Goma, donc des manifestations qui ont été annoncées contre la force régionale, c'est un appel au calme que nous lançons à nos populations. Nous comprenons évidemment les frustrations, les colères accumulées depuis l'activisme du M23, mais le gouvernement est engagé sur différents fronts pour régler et qu'il faudrait éviter de faire le jeu de l'ennemi parce que dans ces types de manifestations, parfois, il peut y avoir des infiltrations qui peuvent conduire à des situations qui peuvent conduire à des drames. Et donc, c'est un appel au calme que nous réitérons, mais c'est aussi un appel au soutien à nos forces qui sont engagées dans la défense du territoire et nous restons confiants sur la stratégie portée par les présidents de la République pour que la paix revienne dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Sud Kivu. 241 cas d'accidents de la route ont été enregistrés dans la ville de Bukavu en 2022. Cela ressort du rapport annuel de la police des circulations routières du commissariat provincial de la police de cette province. Ces accidents ont entraîné 54 décès et plusieurs dégâts corporels. Les détails avec Rachel Kiesembangu.
Les routes de Bukavu ont énormément tué en 2022. Les accidents ont entraîné 54 décès, d'après le rapport de la police des circulations routières rendu public mercredi, soit à peu près un décès sur la route tous les 6 jours. La PCR dit avoir aussi enregistré 147 cas de dégâts corporels graves et 98 cas de dégâts corporels légers. 146 cas de dégâts matériels importants et 106 moins importants ont été aussi relevés. Ici, il s'agit des dommages qui ont affecté les engins. Mais quelles sont les causes de ces accidents? Pour la PCR, 122 cas ont été consécutifs à l'excès de vitesse, 36 dus à l'ivresse au volant, 10 suite aux pannes techniques liées au système de freinage, 10 au mauvais état de route et 3 suite au mauvais stationnement pour ne citer que cela. La PCR ajoute que, grâce à la sensibilisation faite à l'intention des usagers de la route, il y a eu baisse des cas d'accidents en 2022 par rapport à l'année 2021. Où 643 cas d'accidents ont été enregistrés. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Parlons à présent de cette tragédie que nous venons d'apprendre à l'instant. Accident de navigation mortel à Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Plus de 100 passagers, indiquent des témoins, ont trouvé la mort dans le naufrage d'un convoi motorisé, lequel se rendait à Lilanga au Congo-Brazzaville. Mais l'accident a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi sur la rivière Lulonga, à proximité du village Likwelo, à 78 km en aval de Bassankoussou. Les rescapés affirment avoir perdu toutes les marchandises, dont les produits vivriers et des bêtes. La surcharge est la principale cause de cet énième accident sur la rivière. Aucune opération de secours n'est jusque-là organisée en vue de rechercher les corps et les disparus. Parlons à présent de cette actualité dans la province du Maniema. Le nouveau comité de gestion de l'université de Kindu lance son premier cri d'alarme à toutes les filles et fils de cette province adhérer à leur vision de fédérer autour de l'université de Kindu toutes les forces vives pour apporter leur soutien à l'actuel comité de gestion à l'exécution des missions lui confiées. Cet appel a été lancé hier mercredi 18 janvier lors de la cérémonie de remise et reprise entre les comités entrants et sortants de cette université publique. Le recteur a par cette même occasion rassuré sa disposition à l'écoute de la communauté pour traiter dans une vision collégiale les problèmes prioritaires qui bloquent le fonctionnement de cette institution. On écoute le recteur professeur Deogracias Kimenya Moussaïloa au micro de Florence Kizalunga.
La confiance qui est placée en nous par la République à diriger cette grande institution de savoir constitue pour nous un défi majeur qui nous importe à relever à tout prix. Seuls, nous ne pouvons répondre parfaitement aux attentes formulées qu'il soulève, mais avec le concours de chacun de nous qui croit au rôle de l'université dans la société, qui mettra la main à la pâte, nous permettra de bâtir une université davantage plus grande qui apportera des changements très positifs dans nos conditions de vie et de travail. L'université, au-delà de son caractère d'institution de haut niveau de savoir, est aussi une grande industrie au propre comme au figuré qui apporte des changements positifs dans les acteurs de la vie nationale. Il nous importe donc de lui apporter tous notre concours, la main dans la main, dans une communion d'esprit et de cœur, condition pour une cohésion sociale capable de surmonter les divergences qui gangrènent notre province et lui empêchent d'amorcer un véritable décollage.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud, qui a toujours refusé de condamner la Russie pour son invasion de l'Ukraine, a annoncé l'organisation en février des manœuvres communes avec les marines russes et chinoises au large de ses côtes. L'Afrique du Sud va accueillir la marine chinoise et celle de la Fédération des Russies lors d'un exercice maritime multilatéral entre le 17 et 27 février, a ainsi confirmé l'armée sud-africaine dans un communiqué. La grève illimitée des transporteurs sénégalais qui dénoncent les mesures prises pour lutter contre l'insécurité routière a débuté mercredi. Mise en place le 9 janvier dernier au lendemain de l'accident meurtrier survenu dans le département de Kaffrine, ces dispositions sont contestées par les voyagistes. Ces derniers critiquent le manque de concertation et l'impossibilité d'appliquer certaines directives parmi lesquelles l'interdiction de disposer des porte-bagages souvent porteurs des revenus supplémentaires mais aussi celle de rouler la nuit pour les véhicules des transports publics interurbains.
L'invité.
Le coordonnateur Poulk Grand Kassai de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain Anser est notre invité. Cet établissement public a fait appel à l'expertise en énergie de SACIM pour la construction d'une centrale hydroélectrique sur ses chutes Mbombo à environ 15 km de Kananga. En croire Damien Toambilangane, cette société a construit la centrale hydroélectrique de Toubitoubidi sur la rivière Loubi dans le Kassai oriental. Déjà, Anser, qui planifie le début des travaux le mois prochain sur les chutes Mbombo, assure que les fonds sont déjà disponibles, indique-t-il. Damien Toambilangane s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Damien Toambilangane, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à chute Mbombo. Voilà ce que là on a amené, je vais dire, le représentant d'une entreprise, SACIM. C'est pour la prospection, c'est pour la construction. Alors pourquoi nous sommes ici?
Nous avions déjà lancé la machine de la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo. Donc nous sommes évidemment dans les processus. Donc comme on disait, il y avait des études qui avaient déjà été faites. Et cette fois-ci, en tout cas, nous voulons avoir cette tendance d'identifier une société qui a de l'expertise. C'est vrai que de toute façon, le mode normal pour nous, c'est les appels d'offres. Mais ici, moi personnellement, j'essaye de faire avancer les choses avec une société qui a de l'expertise. Ici, c'est la société qui a construit la centrale hydroélectrique de Toubitoubidji à Mbujimayi, à Miabi. C'est une centrale de 12 MW qui alimente SACIM, la société minière des Chinois. C'est une société mixte avec le Congo. Mais c'est eux qui ont construit Toubitoubidji. Tout le monde peut aller sur YouTube, écrire Toubitoubidji, ils verront qu'est-ce qu'ils ont fait comme travail. Et c'est la même société que nous sommes en train de penser impliquer dans la construction de la centrale hydroélectrique de Mbombo, parce que c'est plus ou moins les mêmes conditions, la même puissance. Et ce sont des gens qui maîtrisent à un très haut niveau la technologie qu'il faut à cet endroit.
Ils viennent pour la prospection. Qu'est-ce qui va suivre? Formalisation d'un partenariat, un contrat? Et ça va prendre quelle période? Parce que, en tout cas, ce que les gens attendent, c'est voir les ampoules ou une ampoule s'allumer.
Les gens doivent comprendre que ce projet de Mbombo va prendre maximum 18 mois. C'est le nombre de mois que nous avions déjà annoncé.
À dater de?
Donc, aujourd'hui, le défi que nous avons, c'est de finaliser tout ce qui est paperasse, ça veut dire tout ce qui est démarche administrative, contractualisation, tout ça au plus tard, fin du mois de février. Parce que, vous savez, nous, on se plaint beaucoup quand même de la lourdeur administrative dans notre écosystème administratif. Mais le défi qu'on s'est donné, c'est qu'à la fin du mois de février, que nous ayons bouclé en tout cas tout, du moins sur le plan administratif. Et les choses avancent vraiment très bien à ce stade. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut compter 18 mois pour pouvoir avoir les premiers kilowattheures qui sont desservis. Donc pendant toute cette année 2023, la population centre-kassaïenne viendra commencer à faire du tourisme sur ce site qui sera un grand chantier.
Un grand chantier. Mbombo va alimenter Kananga ou tous les autres territoires. Comment ça va se passer?
Non, Mbombo, la mission de Mbombo particulièrement, 12 MW, c'est pour alimenter Kananga et ses périphéries. Parce que vous savez, en Serre, nous, c'est des zones rurales et périurbaines. Mais on ne peut plus refaire l'erreur de l'époque où on faisait Inga-Chaba, la ligne nous passe sur la tête et Kananga est en dessous, il n'y a pas d'électricité. Non, nous tirons la ligne de Mbombo jusque Kananga et nous allons alimenter la ville et puis bien sûr toutes les zones périphériques. Wow. Et au-delà de ça, avec l'autre programme que nous avons des projets d'urgence, nous implémentons des centrales solaires et hydroélectriques à proximité des populations, dans les territoires. Nous avons tout un grand programme sur ça que nous avons déjà lancé d'ailleurs. Mais ça, c'est pour des centrales solaires et hydroélectriques de petite puissance, 100 kW jusqu'à 1 MW. Mais ici, nous sommes pour 12 MW. C'est une puissance qui va industrialiser la ville de Kananga et ses périphéries. Mbombo, le choix, parce que d'une part, c'est un site qui est idéal. Il est situé à plus ou moins maximum 15 km de la ville de Kananga. Ça veut dire qu'il y a une incidence sur le coût. On n'est pas obligé de faire le transport en haute tension. Nous allons transporter en moyenne tension. Ça baisse déjà sur le niveau du coût. Ça, c'est un. La deuxième chose, Mbombo, c'est sur la rivière Lulua, où nous avons un très grand débit. Le débit ici à utiliser, c'est plus ou moins 200 m3 par seconde. C'est un très, très bon débit. La troisième chose, c'est le grand potentiel. Mbombo, en réalité, le site où nous sommes, a le potentiel d'aller jusqu'à 20 MW. Mais nous allons progressivement, nous allons commencer par 12 MW. Et puis progressivement, nous pouvons continuer avec les autres centrales. Et puis, quatrième Deuxièmement, c'est par rapport aux technologies. Vous savez, la première étude Mbombo a été réalisée dans les années 94, mais aujourd'hui les technologies sont tellement avancées que aujourd'hui il y a des technologies qui nous permettent d'aller très vite avec, avec le site. Voici les principales raisons qui nous permettent de pouvoir choisir Mbombo.
Alors, qu'est-ce qui rassure ?
Nous sommes sur une très très bonne voie. On ne souffre pas de la contrainte financière. On ne souffre pas de la contrainte technologique. Aujourd'hui, ce serait peut-être un peu la lourdeur administrative. Nous nous donnons les moyens pour vaincre ça. Mais maintenant, le problème qui pourrait se poser sérieusement, ce serait le degré d'appropriation du projet par la population.
Monsieur Damien Tambilangane, nous vous disons merci.
Merci à vous aussi.
Nous disons aussi merci à François Kadima et Daniel Tambilangane, qui est coordonnateur de l'agence Anser dans la zone Grand Kassai. Ce journal vous a été préparé par Élisée Chicota, Jean-Claude Ciel a assuré la prise des soins et la mise en onde, et Billy Van Lotumba vous l'a présenté au nom de toute cette équipe. Je vous dis sincèrement merci.